Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de Succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de Mecs, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je tends mon micro à Guillaume, qui est expatrié en Australie avec sa femme depuis 10 ans et qui ont décidé, suite au premier confinement, de vendre leur maison, presque toutes leurs affaires, de mettre leurs deux garçons de 8 et 5 ans et leur chien dans une caravane pour partir faire un road trip tout autour de l'Australie. Ils en ont profité pour déscolariser leurs enfants et sont partis depuis un mois et demi, sans date de retour prévue. Guillaume me raconte leur installation en Australie alors que sa chérie était déjà enceinte de 6 mois, la façon dont il a géré ses premières années de père par rapport à son propre modèle d'éducation, l'apprentissage de la gestion de ses émotions, lui qui a toujours eu des relents d'homme des cavernes comme il le dit lui-même, et aussi, bien sûr, la genèse de ce formidable projet de voyage en caravane dans toute l'Australie. De mon côté, je vous laisse maintenant en compagnie de Guillaume, sans oublier de vous souhaiter de joyeuses fêtes, de vous remercier d'avoir continué à suivre ce podcast durant cette année 2020 extrêmement bizarre pour tout le monde, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, bien sûr le premier lundi de janvier, pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci à vous et bonne écoute. On est Guillaume, salut Guillaume.
Salut Fab.
Comment ça va?
Eh ben écoute, plutôt bien. Plutôt bien. Très heureux de faire partie du podcast.
Ah bah avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir envoyé un mail. De votre côté, si jamais vous voulez m'envoyer un mail aussi, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous m'envoyez un mail à Histoire de Daron, histoire avec un S, daron avec un S, @gmail.com. C'est ce que tu as fait. Alors j'ai mis un peu de temps pour te répondre, mais je finis toujours par répondre. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, si le projet est intéressant et si ça me parle. Alors, il est 10h du mat chez moi en France. Et toi, de ton côté, si je ne me trompe pas, il est 10h de plus, c'est ça?
Il est exactement 10 heures de plus. Je suis actuellement à Sydney, en Australie.
Et t'es à Sydney en Australie, mais t'es pas à Sydney de n'importe quelle façon, en fait.
On y va de la façon la plus basique. On y va de la façon... on y va par la route. À la base, on est situé à Brisbane, qui se situe à plus ou moins 1000 km plus au nord de Sydney. Et Sydney fait partie d'une des étapes de notre road trip familial qu'on a lancé il y a à peine un mois et demi.
On en reparlera un petit peu après plus longuement, mais vous êtes parti en caravane, vous avez embarqué vos mômes, hop, vous les avez foutus dans une caravane et let's go.
Ouais, les deux mômes, le chien et let's go. Donc cette caravane, on y reviendra sûrement, mais cette caravane a une histoire, ce road trip a une histoire et on est en train d'écrire notre histoire depuis un mois et demi.
L'autre truc aussi qui est important, c'est que vous avez tout vendu. Si je me trompe pas.
Tout vendu, ce qu'on n'a pas vendu, on a pu le donner. Ce qu'on n'a pas pu donner, on l'a mis en garde-meuble. On a un garde-meuble qui doit faire, je sais pas, 3 mètres par 2 à Brisbane, avec un cadenas, qui contient à peu près le restant de notre vie. Et vu qu'on s'est lancé avec ma femme il y a un mois et demi sans aucune date de retour, on ne sait pas pour combien de temps ce sera en stockage là-bas, mais en tout cas, ouais, ce qu'on on s'est débarrassé du, et ça fait partie aussi de l'histoire du projet, du superflu, pas nécessaire. On a fait la liste de ce qui compte et de ce qui compte pas, et il fallait que ça rentre dans notre caravane qui fait 4 mètres par 2,5.
Vous vivez à 4 là-dedans.
Et on vivait à quatre là-dedans. Et pour la petite histoire, on a laissé une maison derrière nous qui faisait à peu près un peu plus de 300 mètres carrés, qui est vraiment dans le standard australien. Grande maison, grande piscine, grand jardin. Et en se posant la question de savoir si on avait vraiment besoin de tout ça, la réponse n'était pas forcément évidente. Donc du coup, on a décidé avec ma femme que c'était peut-être pas forcément essentiel dans notre développement de famille. et pas forcément essentiel dans ce qu'on voulait mettre en place avec les enfants. Donc on a donné énormément, on a franchement quasiment rien vendu. On a pas mal donné aux assos, ce qui fait partie aussi de notre vie d'une façon. Et donc du coup, on a ce qui rentrait pas dans le stockage, dans le garde-meuble a été donné.
Ok. Waouh. Bon, on va en reparler un petit peu après. Forcément, tu te doutes bien. Mais avant ça, parce qu'on est aussi là pour parler de ton histoire de daron à toi, on va aussi. J'imagine que c'est entrecoupé avec le fait que aujourd'hui tu vives en Australie, ce qui est pas forcément une destination banale pour un Français. En tout cas, c'est assez rare, moi, de ma part, d'entendre des Français expatriés en Australie. Enfin, j'entends plus au Canada, par exemple, tu vois, au Québec, etc. D'où t'es venu, toi, ton envie de devenir papa?
Bah écoute, et ça fait partie un peu de l'histoire de base, c'est que je me suis jamais vraiment posé la question, dans le sens où je fonctionnais jusqu'à très rarement selon des schémas établis. C'est-à-dire que t'es un gamin, tu deviens un ado, tu deviens un mec, tu deviens un homme, tu trouves quelqu'un, t'as des enfants, et voilà. Et en fait, je me suis surpris à certes vouloir des enfants, mais à pas vraiment y réfléchir, comme si ne pas avoir d'enfants était vraiment pas une option. J'ai eu vraiment toujours un peu cet a priori de des gens qui ont pas d'enfants, c'est un peu comme si bah, il leur manquait quelque chose. Ils le réaliseront peut-être pas maintenant, mais ils le réaliseront dans 15 ou 20 ans. Et je voulais pas, moi, être une de ces personnes. Donc, si tu veux, j'ai eu des enfants. Absolument ravi d'avoir mes deux petits garçons, en plus dans des conditions qui sont un peu particulières, parce qu'en Australie, on reviendra sûrement là-dessus. Mais si tu veux, ne pas être papa n'était pas une option pour moi. Je voulais être papa, j'ai toujours voulu être papa, dans le sens où j'ai toujours eu des petits cousins, toujours aimé les enfants en tant que tel. Et pour moi, être papa, c'était être cool. Et un peu sévère de temps en temps. Et voilà, quand j'ai dit ça, tu vois très bien que je me suis planté à la base. C'est que ça marche pas du tout comme ça. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'être papa, c'est pas super simple. Que je comprends maintenant les gens qui ont pas forcément envie d'être papa ou maman. Et qu'il faudrait franchement avoir, je sais pas, un permis de papa, quoi. Il faut passer des tests avant être père ou mère, quoi. C'est parce que c'est une ignorance totale. Et ça, je l'ai appris en marchant, quoi. C'est exactement
sur le tas.
L'expérience. Oh, absolument sur le tas. En plus, du coup, de par notre expérience, je m'étais jamais imaginé père loin de mes parents. J'avais toujours l'idée que si ça merde ou si j'y arrive pas trop, bah voilà, il y a papa, maman qui sont là pour rectifier le tir. Mais là, t'es papa et maman à 17 500 km de ton papa et de ta maman. Donc, les erreurs, tu les fais x10, parce que t'as personne autour de toi qui va te dire comment faire. Ça, tu l'apprends avec que plus tard. Tu élèves ton enfant en plus loin du schéma que tu t'étais préétabli, parce qu'en Australie, il y a des particularités qui sont propres à l'Australie, mais par exemple, c'est posé la question dès le début de l'allaitement, par exemple, qui en France, allaitement est loin d'être le standard. Moi, j'ai aucune des femmes de ma famille qui avait allaité avant. Ça a toujours été au biberon et au lait maternel, enfin au lait en poudre. Donc pour moi, c'était les en poudre pour le bébé. Et en fait, bah, quand on a eu notre premier enfant, par exemple, tu sens vite que les infirmières te regardent. Et y en a, je me souviens d'une qui nous a dit qu'on avait décidé de nourrir notre enfant de façon artificielle. Parce que le standard australien, c'est l'allaitement.
Ah, ok.
C'est 100% allaitement. Et en plus, c'est allaitement long. C'est-à-dire que c'est l'allaitement pendant 8, 9 mois, 12 mois. Et nous, premier bébé, on est arrivé, pour te donner une idée, c'est qu'on est arrivé à la maternité et il a fallu qu'on fournisse nous-mêmes le lait en poudre. je vais y arriver, le lait en poudre, les biberons et tout ça, parce qu'il n'y a rien de prévu dans l'hôpital pour ça. Pour répondre à ta question, être papa, toujours voulu, jamais trop réfléchi, un peu comme toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, très satisfait du résultat, mais je comprends que c'est pas facile avec le recul et que c'est pas fait pour tout le monde.
C'est marrant parce que tu disais un truc où tu disais que t'avais jamais vraiment réfléchi à penser autrement, tu sais, que le truc qu'on t'avait inculqué, alors sans pour autant dire que tu regrettes aujourd'hui d'avoir eu des enfants, etc. Mais est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui, moi c'est souvent une question que je me pose, tu sais, et encore une fois, sans nier l'existence de tes enfants, parce que pour moi ça c'est un truc qui, je pense que les deux peuvent exister, et pour moi au contraire c'est assez sain de se poser la question. Aujourd'hui, maintenant que t'as peut-être des clés pour réfléchir de façon, enfin un peu en sortant en tout cas du schéma qu'on t'avait expliqué, tu te dirais ok, let's go, refaisons des enfants si t'avais 10 ans de moins, quoi, tu vois, avec l'état d'esprit dans lequel t'es aujourd'hui.
Je pense que une fois de plus, sans remettre en question quoi que ce soit, parce qu'en plus j'ai vraiment la chance que j'ai deux gamins à qui ça se passe très bien, et le projet qu'on est en train de faire ne se réaliserait pas sans deux bons gamins. Mais je pense clairement, si j'avais eu des enfants à 35 ans, par exemple, à l'âge que j'ai aujourd'hui, avec la maturité, l'expérience que j'ai, tout ça, sans parler expérience enfant, mais ne serait-ce que des tas de choses que tu fais quand tu as 25 ans et 35 ans, la différence de style de vie que tu as et tout ça, et tu vois les gens évoluer autour de toi, je pense que j'aurais beaucoup plus réfléchi à est-ce que les enfants c'est fait pour moi ou pas. Parce qu'à 25 ans, je ne me suis pas posé la question, mais à 35 ans, je me posais vraiment la question, et pas seulement dans mon intérêt, mais aussi dans celui des enfants, parce qu'on y reviendra, mais j'ai pas été forcément le meilleur des papas à 26, 27, 28 ans. L'expérience de père fait que tu te découvres en même temps que tu te découvres en tant que père. Tu te prends les pieds dans le tapis tous les 2-3 jours, malgré tous les principes que tu veux bien mettre en place. Donc, je pense que j'aurais beaucoup plus réfléchi. La réponse, là où je suis heureux aujourd'hui, c'est que je me dirais oui, et avoir un plan qui tient la route, parce que peut-être avec l'expérience d'amis autour et tout ça. Même si je suis persuadé que tu réalises vraiment pas le rôle de père tant que tu le vis pas. C'est un truc absolument unique. et c'est pour ça que ton podcast est bien, parce que le rôle de père, il est sous-communiqué, et le rôle de mère est très bien, je pense très bien amené par différentes personnes. Rôle de père, et c'est pour ça que ton podcast m'a intéressé, c'est que rôle de père, quand t'as pas un pote confident à qui tu t'ouvres, ou un père à qui tu peux parler facilement, ou tu galères, parce que c'est pas en soirée mec PlayStation que tu ou soirée au bar que tu parles de ta paternité. Tu parles de conneries, on est très fort pour ça, nous les mecs. Alors paternité, si, mis à part comparer celui qui nage le plus vite ou qui joue le mieux au foot, le rôle de paternité en s'ouvrant et en mettant le cœur sur la table, on n'est pas vraiment fort à ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. J'en profite pour faire, je sais pas si tu l'as écouté, mais une petite promo pour mon autre podcast qui s'appelle Histoire de mecs, où je fais parler, alors ça se recoupe, hein, parce que, en fait, je fais parler des mecs, de leur rapport à la masculinité. Donc, si t'as jamais écouté, je t'invite à écouter, parce que ça parle d'autre chose, en fait, d'un sujet un peu plus large, mais en fait, ça se recoupe énormément, parce que comme tu dis, en fait, quoi qu'il arrive, notre rapport à la paternité, il est très en lien avec notre propre rapport à la masculinité. En général, en plus, on se construit notre image de père par rapport à notre propre père, très souvent, et notre propre père, il a lui aussi pris dans la gueule les conneries qu'on peut amener dans la masculinité, qui sont souvent négatives aussi. Il y a plein de choses positives, mais il y a des choses aussi négatives. Et donc, si tu connais pas, voilà, ce podcast s'appelle Histoire de mec, et ça parle Ça, si vous aussi, auditrice et auditeur, vous connaissez pas, je vous invite à l'écouter parce que ça parle vraiment de sujets un peu plus larges et notamment du fait que les mecs entre eux ne se parlent pas, même entre potes.
Ah ouais, non, mais non,
sauf avec de l'alcool dans le pif, quoi, tu vois. Ça, en général, ouais. Ça s'ouvre, ça finit par s'ouvrir.
Le seul hic à ça, c'est qu'il faut s'en souvenir le lendemain matin et c'est pas toujours le cas. Ouais, non, j'ai écouté quelques épisodes de Histoire de mec aussi. Okay. Et ouais, c'est clair que alors c'est marrant parce que ce podcast, il est pas interactif, mais par les sujets que tu abordes avec tes invités, t'as vraiment l'impression qu'il y a une discussion et cette discussion, elle s'enclenche pas que entre toi et tes invités. J'ai vraiment l'impression de faire partie de la discussion. Et c'est super intéressant je sais pas si c'est lié au format ou quoi que ce soit, mais je me souviens de l'interview que t'avais fait avec alors c'était sur la calvitie et je suis pas du tout concerné mais ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs sur certains mal-êtres que mes potes avaient autour de moi et avec qui j'en avais jamais parlé. Et depuis le podcast, j'ai réussi à ouvrir la boîte de Pandore et j'ai dit ok, dis-moi, est-ce que ça te gêne, est-ce que ça te gêne pas, enfin voilà. Et du coup, j'avais à aucun moment, avant ton podcast, avant cette interview, je me suis posé la question si c'était un problème pour le mec qui perdait ses cheveux. À aucun moment. Et
trop cool.
Donc voilà, donc c'était trop cool.
Ça me fait plaisir, franchement, ça me touche. C'est un peu le but, donc c'est cool.
Et hop, petite pause auto-promo. Dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview.
Mais revenons à la paternité, si tu veux bien. Donc, comment tu te retrouves, toi, en Australie parce que tu y es depuis 10 ans, c'est ça ?
10 ans, oui. On va fêter nos 10 ans. On est entre 9 et 10 ans. À l'époque, 2011... Super situation de boulot pour moi. Je suis responsable Europe des ventes pour une boîte américaine qui me fait voyager partout en Europe. Ma femme a une super situation. Elle a lancé sa boîte d'événementiel sur Paris qui fonctionne super bien. Et en fait, on a fonctionné comme ça 5 ans. Et ça fait partie aussi de mon profil, c'est que dès que je sens que je rentre dans des schémas préétablis, je suis très vite mal à l'aise. Je me sens très vite à l'écart et je m'ennuie et je sens que c'est pas pour moi. Et donc du coup j'ai regardé et on avait une super situation, mais voilà, la route était toute tracée, c'est-à-dire que j'avais mon N+1, N+2, N+3 qui avait pour moi décidé d'une carrière qui était certes super sympa sur le papier, mais qui me correspondait absolument pas. Donc j'ai dit à ma femme, j'ai dit écoute, qui n'était pas ma femme à l'époque, mais j'ai dit à ma femme, Elodie, j'ai dit hello, on a besoin d'un break là, tu bosses trop, je bosse trop, on se prend 2 mois de vacances. Et en fait, elle connaissait déjà l'Australie. Donc elle connaissait l'Australie et elle avait adoré, elle était allée 2-3 ans avant et elle était rentrée pour finir ses études en France et je lui dis écoute, on y va. J'avais toujours eu un super a priori sur l'Australie, ça faisait partie des destinations qui m'attirait sans trop savoir pourquoi. On a pris un billet d'avion et on a rencontré un vieux copain à moi ici en Australie qui faisait et ça faisait lui déjà 10 ans qu'il était là en Australie. Et au bout de des opportunités comme ça, au bout de 2 heures de discussion, il me propose du boulot. Il faut savoir qu'en Australie, te proposer du boulot, c'est une chose. Avoir le bon visa pour pouvoir y rester, c'en est une autre. Donc l'Australie mise absolument sur les jeunes étudiants qui viennent en ce qu'ils appellent un visa vacances-travail. Donc tu viens sans qualification, quoi que ce soit, et tu peux travailler dans des entreprises. Et moi, j'avais une situation quand même. Et ma femme avait déjà utilisé ce visa-là, donc on pouvait plus venir en Australie sur ce visa-là. Donc du coup, j'ai dû négocier un visa de travail que j'ai réussi à négocier. Et tout ça s'est fait en 3-4 jours. Et donc, j'ai rencontré, j'ai même pas rencontré, au téléphone, le contrat s'est fait au téléphone avec le boss de mon pote de l'époque. Et on a signé 2 semaines plus tard. Et on s'est dit, avec ma femme, on s'est regardé, on a dit, écoute, on le fait, on fait le saut. Et là, ça résonne déjà avec ce qu'on a fait il y a un mois et demi avant de se lancer sur le road trip, c'est que là, on a tout vendu en France, on a tout laissé, on est parti avec 2 valises. Donc on a dû rentrer en France, on a tout vendu, on a soldé, on a vendu le business de ma femme, j'ai filé ma démission, et quand on est parti avec 2 valises. On a pris la décision en février, donc on était encore en vacances, on est rentré en février en France, et on est revenu en Australie avec un visa et tout ça en octobre.
Wow.
Donc on a mis 6 mois pour tout solder.
6 mois.
Voilà. Et pour la petite histoire, ma femme est tombée enceinte à ce moment-là.
Tu veux dire, pendant ces 6 mois ?
Pendant ces 6 mois. Donc, c'est posé la question de savoir si ma femme, en étant enceinte, on partait quand même.
Bah ouais, tu m'étonnes.
Et ben, donc, la suite de l'histoire, c'est qu'on a quand même décidé de venir. Et on est arrivé, donc je suis arrivé, j'ai l'habitude de dire pour rigoler, je suis arrivé avec ma femme, 2 valises et un bébé de 5 mois dans le ventre. Et commence l'aventure. Ah ouais.
Et donc vous vous installez là-bas. De ton côté, est-ce que tu te rends compte à ce moment-là, que de l'intensité du truc, en fait, de cette installation en Australie, dans un pays que j'imagine, enfin, vous connaissez assez peu, et aussi, tu as une autre aventure qui t'attend, c'est que tu vas être papa. Comment tu vis cette grossesse ?
En négligeant totalement le côté devenir papa, tellement focus sur l'installation en elle-même. C'était, comme tu l'as dit, très intense, parce que donc en arrivant avec une femme enceinte de 5 mois, tu t'aperçois vite que tu n'as pas tout calculé avant de partir. Et donc, par exemple, on ne peut pas avoir accès aux hôpitaux publics. Donc il faut aller dans le privé. Que les hôpitaux privés coûtent une fortune. Que les hôpitaux privés, en fait, c'est pas comme en France, c'est-à-dire que tu as un gynéco qui te suit toute ta grossesse à partir de ton 3e mois. Et en fait, il te fait un espèce d'abonnement au mois, avec tous les stades et tous les coûts à venir. Et donc, en fait, nous, on trouvait aucun gynéco qui nous faisait un prorata. C'est-à-dire qu'on arrivait quasiment au 6e mois. Et je dis, je vais quand même pas payer 6 mois de suivi pour 3 mois de suivi. Et donc, j'ai fait une prospection. J'ai appelé tous les gynécos de la ville de Brisbane. J'ai fait un tableau Excel. J'ai fait tous les comparatifs. Et en fait, on a choisi le seul gynéco qui nous faisait un prorata. Et la chance qu'on a eue, c'est que c'était un gynéco très bien. Je me souviens avoir eu cette décision un peu bizarre en disant, il avait une tête un peu de Père Noël, et je me suis dit, tu sais quoi ? J'ai dit à ma femme, je crois que je serais heureux que mon fils, il voit cette tête en naissance, tu veux. Je crois que je serais assez content qu'il voit cette bonne tête de bonhomme avec une bonne barbe et tout ça, il a l'air sympa. Et je me dis, c'est plutôt pas mal comme welcome pour le petit. Donc il y avait ce côté-là. On a dépensé une fortune dans les frais médicaux, parce qu'en plus, quand tu arrives dans la clinique, ils te font un détail de toutes les prestations. Et donc c'est là que je sais, par exemple, que une péridurale coûte tant, la césarienne c'est tant, l'heure dans la couveuse c'est tant. Et je me souviens, et là ma femme m'a détesté ce jour-là, c'est que j'ai demandé à ma femme si la péridurale était vraiment nécessaire.
C'est terrible. Ouais, mais alors, ouais. juste pour avoir une idée, ça, et sans vouloir être indiscret, ça te coûte, et surtout pour avoir une idée de combien ça pourrait coûter en France, là où moi, tu sais, j'ai eu ce réflexe un peu con. En fait, en vrai, je trouve assez citoyen de quand ma femme a accouché de notre premier enfant, je suis allé à l'accueil pour demander combien je devais. quand on est sorti. Et la réceptionniste a souri et m'a dit « Non, vous inquiétez pas, tout est pris en charge. » J'ai fait « Ok, d'où ça sort que c'est tout ce qu'on vient de vivre là, en fait, c'est gratuit ?» Et bah, parce qu'en fait, on vit en France, quoi. Juste pour qu'on ait un peu une idée, ça vous a coûté combien ?
Je vais te dire exactement, parce que c'est moi qui ai tenu le fichier Excel à jour. un peu plus de 18 000 dollars. Donc, on va dire 12 000, 13 000 euros. 12 000 euros à l'époque, 13 000 euros. Bah c'est simple, hein. Moi j'avais économisé en venant en Australie pour acheter, je suis motard, donc pour acheter une Harley Davidson. Et ben tu vois, on est 10 ans plus tard et j'ai toujours pas ma Harley.
Faut faire des sacrifices.
Voilà, exactement, exactement, ça fait partie des sacrifices. Mais donc nous du coup on s'est renseigné parce qu'on trouvait ça exorbitant et on s'est renseigné une fois rentré en France, la première fois qu'on est rentré en France et ça coûte la même chose à un étranger qui accouche en France. Hein. Donc,
ah ouais, ok.
Ouais, c'est la même chose, c'est pas les prix qui sont... Mais tu vois, par exemple, la péridurale, c'est 1300 euros. Donc, alors...
Bah ça fait une roue d'aller de Davidson, franchement. Tu peux bien serrer les dents, quoi, deux secondes.
Exactement. ça, c'est pas si dur. Non.
Terrible. Les femmes qui nous écoutaient, c'est faux. On sait très bien que... Enfin, franchement, moi, je voudrais pas jamais accoucher de ma vie. Vraiment, ça a l'air d'être terrible comme douleur.
Jamais
quoi. Pardon.
jamais de la vie. Et encore, hein, le budget que j'ai donné, c'est un accouchement sans difficulté. Hein. Le bébé est arrivé sans problème et aucune...
Ah ouais.
Ouais. Sinon, ça monte, ça peut très, très vite monter.
Je me demandais, est-ce que tu faisais partie de ces pères qui, de ce fait-là, avaient tout organisé en mode hyper pratique, etc., etc., ou t'avais budgétisé, naninana, tu vois, et en te, comme tu disais justement, en mettant complètement de côté l'aspect émotionnel.
Normalement, c'est ma femme qui est plutôt côté budget. De façon très normale, elle était plutôt occupée à autre chose. Donc c'est moi qui ai tenu le budget et c'est vrai que je me suis un peu rendu compte du côté très mécanique et très on est en mode survie, c'est-à-dire je trouve que j'ai peut-être très vite endossé le rôle de papa qui doit assurer d'un point de vue comment dire à la fois financière, à la fois logistique et c'est vrai que le côté devenir papa, pour moi, ça a pas été... la charge émotionnelle est venue qu'après. Au début, c'était surtout... Oh, putain, tout ce qu'il y a à gérer.
Comment t'expliques aujourd'hui, avec le recul, le fait que t'es pas... Le côté émotionnel soit venu plus tard?
Je pense... c'est un peu un trait masculin, ça, de toute façon, pour en parler autour de moi. Et moi, je crois que je suis... Je vois pas vraiment le mur tant que je suis pas au pied du mur, quoi. Je suis pas vraiment un gros anticipateur dans la vie de tous les jours, mais encore moins de façon émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions, bien souvent, je me les prends comme une vague, tout de suite, qui m'arrive dessus. Et je crois que j'ai réalisé le côté émotionnel, je crois qu'une fois qu'on est rentré dans la salle, quoi. Une fois que je me suis dit, là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de marche arrière, c'est maintenant que ça se passe, parce qu'en plus, ma femme avait réussi à avoir une date pour se faire déclencher, c'est ce qu'ils font en Australie en clinique privée. Donc on savait exactement quand est-ce que le bébé allait naître, on savait qu'une fois qu'on était rentré dans l'hôpital, on allait ressortir avec le bébé. Et donc là, je savais que c'était OK, tout a été géré, maintenant place à l'émotion. Tu vois, j'avais ce côté tiroir qui était rangé, qui était fermé, maintenant on passe à autre chose. Ça a pas du tout entaché mon côté émotionnel parce que j'ai vraiment des bons souvenirs à la fois de l'accouchement, du pré-accouchement, du pendant, de l'après. Ça a été vraiment un super souvenir, d'autant plus que les hôpitaux australiens te laissent la possibilité en clinique privée de dormir autant de temps que tu veux avec la maman et le bébé. Donc nous on est restés 5 jours dans l'hôpital en vase clos. On n'était que tous les trois. Et là, avec les rideaux à peine ouverts, c'était vraiment très, très somnolent. Le moindre bruit du bébé, on l'entendait, tout ça. C'était super, super émouvant. Et ça, on l'a vécu, mais à 200%. Moi, je ne suis pas sorti de l'hôpital. L'hôpital était génial. Et ce moment-là, c'est vrai que émotionnellement, c'est un moment suspendu qui a été juste génial.
Et donc, quand vous sortez de cet hôpital, vous êtes à la fois, j'imagine, tout nouvellement installé en Australie, et vous avez aussi maintenant ce bébé à gérer. Comment ça se passe au début?
Eh ben, écoute, tu vois, on a ce bébé, donc 6 mois après être arrivé en Australie. Il y a mes beaux-parents qui sont là pour la naissance, quand même. Ils sont arrivés quelques jours avant, ils sont repartis une ou deux semaines après. Donc on a réussi à avoir un petit peu de cette petite parenthèse familiale. Mes parents n'avaient pas pu venir à la même époque, ils sont venus qu'après, quand le bébé avait un mois et demi. Ce retour à la maison, il est vertigineux parce que en fait on se regarde, ma femme et moi, on a cette poussette qui est neuve, on a ce bébé encore plus neuf et on se regarde et on dit la vache, il y a t'as beau regarder tous les tutos que tu veux et t'as beau regarder te bouffer toutes les émissions que tu veux, t'es là, tu dis là on est vraiment tous les deux. Vu que tu es quand même à 17, il y a deux choses. Il y a 17 000 km de distance des parents, il y a aussi le décalage horaire. C'est-à-dire que tu peux pas vivre les moments avec la famille au moment où ça se passe. Il y a 3-4 heures dans la journée que tu as en commun. Si ça se passe là, tu peux passer un coup de fil. Mais si ça se passe le matin pour nous, c'est la nuit pour vous. Le lendemain matin, le lendemain t'en parles, c'est déjà passé, c'est déjà fini, c'est déjà. Et ce décalage-là fait qu'on s'est senti quand même un peu isolé. Peut-être moi plus que ma femme a tout de suite trouvé ses repères, et moi c'était plutôt le côté ok, maintenant je fais comment ça se passe, qu'est-ce que, sans avoir de retour, parce qu'on n'avait pas encore lié d'amitié avec qui que ce soit, avec des jeunes bébés, on n'avait pas du tout anticipé le côté
social.
Social, mais surtout chronophage d'avoir un bébé, c'est qu'en fait, tu te dis, ouais, t'es deux contre un, tu vas gérer. Mais en fait, ce un te prend l'énergie de deux. Au final, tu te retrouves à avoir des journées qui sont super, super écourtées parce que tu te cales une sieste par-ci, un truc par-là. Moi, j'ai repris le boulot assez tôt parce que j'étais le seul à travailler, donc il fallait faire de la rentrée d'argent et le congé paternité, par contre, en Australie, il est pas super reconnu. Donc au bout de 3 jours, tu retournes au boulot. Donc j'ai laissé tout de suite ma femme toute seule. Je sais qu'elle a eu des moments où c'était pas forcément évident, sans trop me le dire, pour pas m'inquiéter et tout ça, parce que on était quand même dans un schéma où tout est nouveau. Tout est nouveau, mais on s'est toujours mis une barrière, c'est qu'on ne remettrait pas, on se mettait un point d'honneur à ne pas remettre le projet Australie en cause. Ça nous avait demandé tellement de sacrifices et d'efforts de prendre la décision de partir, encore plus en sachant qu'elle était tombée enceinte, qu'on voulait se prouver à nous-mêmes et aussi au reste de la famille qu'avec une envie, c'était qu'on rentre, très clairement. Nous, on a toujours dit que ma femme, non, c'est notre projet, on veut rester. Donc du coup, on s'est toujours mis une pression phénoménale à « il faut que ça se passe bien, il faut qu'on gère, il faut que… » Et du coup, ma femme s'est toujours mis un point d'honneur à pas vraiment me dire quand ça allait pas, ou trop tard. Et voilà, il y a eu des moments pas simples, des moments où, clairement, le décalage fait que j'ai appelé mes parents, mais… Ça s'était passé il y a 5-6 heures, donc c'était déjà une demi-journée passée, donc du coup, tu n'y mets plus la même intensité. Ce qui te semblait important il y a 5-6 heures, au final, ne l'est plus vraiment. Donc, au final, des fois, tu t'aperçois, je m'apercevais que j'ai appelé ma mère, et au final, je ne partageais pas ce qui me paraissait plus important dans la conversation. Donc, pas mal seul. Au bout du monde, on était vraiment au bout du monde. Jusqu'à ce que, et c'est là où ma femme a une idée brillante, et créer un groupe Facebook de jeunes mamans francophones.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ok, en Australie, tu veux dire ?
En Australie, ouais, en Australie, sur Brisbane. Okay. Jeune maman francophone sur Brisbane. Et alors là, en quelques semaines, mais des centaines de familles qui ont afflué sur le groupe de mamans.
Ah ouais ?
Incroyable. Jusqu'à 100 km à la ronde de Brisbane. Une vraie demande, un vrai truc qui n'existait pas ou mal fait. Et là, on en est encore, toi, 10 ans plus tard, elle est encore en train de, enfin, donc, mon fils va avoir 9 ans, mais donc 9 ans plus tard, je crois que le groupe de maman, il a 400 ou 500 familles sur le groupe, qui continuent de s'échanger, qui continuent de s'entraider et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a fait notre bande de potes et notre bande d'amis aujourd'hui. Okay. Et ça a été salvateur dans l'isolement. Je pense pas que sans ça, je pense que ça aurait été compliqué. Parce que l'entourage fait que, enfin, je veux dire, la parentalité fait que on est quand même mis à rude épreuve, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du côté du papa ou de la maman, et sans soupape, c'est compliqué. Et si c'est pas des soupapes, de savoir que t'es pas tout seul en galère.
Pour revenir un petit peu, parce que pour moi, il y a un truc aussi qui est compliqué chez les couples qui sont jeunes parents, c'est justement ce manque de communication qu'on peut avoir. Et je te dis ça parce que moi aussi je l'ai vécu avec mon ex-femme quand on était jeunes parents, où tu fais en sorte de pas dire à l'autre quand t'es en galère pour le protéger, tu vois. Quelle leçon vous en avez tiré? Je pense que c'est une connerie, tu vois, avec
ah bah.
Moi de mon côté avec le recul, mais de ton côté.
Ah ben moi je sais que mon couple est soudé comme il l'est à l'heure actuelle de par et je tire mon chapeau à ma femme. Ma femme est surcommunicatrice. Et ce qui m'a valu je pense qu'elle a mis elle a dû mettre 4 ans à me convaincre de l'intérêt de la communication. Au bout de 4 ans seulement, j'ai compris que c'est vrai que je peux pas. Tu vois, je peux être autre chose qu'un mec dans sa caverne. Je peux aussi échanger, je peux aussi écouter, je peux aussi dire, tu vois. Donc ma femme est une... Je la qualifierais un peu d'hyper émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle a besoin de dire les choses. Si elle dit pas les choses, elle les vit très mal. Et moi, en tant que mec, au début, c'était vraiment... Mais pourquoi tu m'imposes ça? Pourquoi tu m'imposes tes émotions? Moi, je te les impose pas. Et voilà. Et ça demande vraiment un certain réglage, et je te dis, on a mis 3-4 ans, et ce qui est bien, parce que ça coïncidait vraiment avec le côté où ça commençait à être un peu galère avec le côté parentalité, où on voyait un peu les challenges auxquels on allait devoir faire face, mais on s'est senti armé de par cette surcommunication. Alors, très naturel chez ma femme, moi c'est un boulot de tous les jours, encore maintenant, mais je suis convaincu au fond de moi de l'intérêt. Mais sur le moment, j'ai toujours ce côté mec des cavernes qui on a un private joke là-dessus, c'est que en général, des fois, c'est pas le moment, elle le sent et elle me dit ok, d'accord, je te laisse dans ta caverne, je reviens dans une heure. Et en général, ça suffit. Elle fait un pas de côté, moi aussi, et on se retrouve après. Mais sur la surcommunication nous a énormément aidé dans ce qui allait et dans ce qui allait pas.
Tu disais un peu plus tôt que t'avais la sensation, alors je sais plus exactement quel terme t'as utilisé, mais que t'avais la sensation de pas avoir été un très bon père pendant tes premières années de paternité. Déjà, merci de le dire, en fait, parce que je trouve que c'est hyper important d'être capable de le dire et de le partager, sans être en train de te flageller. Et je pense aussi que c'est à ça que ça sert, Histoire de Daron, c'est à, aussi déculpabiliser quand parfois on merde, et comme tu dis, on apprend en marchant, quoi. Ça se concrétisait comment pour toi ?
Ça se concrétisait de la façon où j'ai toujours bossé, avancé avec toute une liste de principes de vie. Et pour moi, être un père, c'était, comme je disais au début, c'était, ça me paraissait simple. Ça me paraissait simple et ça me paraissait être un bon compromis entre être cool, c'est-à-dire le mec fun, le papa fun, et le papa qui sévit de temps en temps, et d'un coup d'œil, toi, les enfants y comprennent, et c'est comme ça. Et en fait, je me suis complètement planté. J'ai réalisé déjà que ce schéma était complètement débile à la base, que ça dépendait tellement déjà du gamin que t'avais en face, et aussi que ça marche pas, quoi. Et que si t'y mets pas de la communication, de la compréhension, de l'empathie, de la patience, moi les plus gros regrets que j'ai au niveau de ma paternité au tout début, c'est j'avais totalement sous-estimé l'impact que la fatigue pouvait avoir sur moi. Et en fait, je pense que j'étais jamais fatigué avant d'avoir eu des enfants. En fait, non, mais tu sais, en fait, tu te sens fatigué des fois, mais quand t'as que toi à gérer, ou que t'es fatigué parce que tu viens d'aller faire une rando ou tout, ben ça va, c'est cool, quoi. Mais quand t'es fatigué parce que journée de merde au boulot, parce qu'en plus tu rentres, et puis en plus t'as le petit qui veut rien savoir, ou t'as une mauvaise nouvelle, ou le petit il a pas fait sa nuit, ou il fait ses dents, ou machin, et où en fait t'enchaînes 2-3 jours où t'as des nuits très moyennes, 4e jour t'en peux plus, je me suis rendu compte, peu importe qui tu peux être le meilleur des mecs, tu peux être la meilleure des personnes, arriver à un moment donné, alors ça peut être au bout de 2 jours, ça peut être au bout d'une semaine, ça peut être au bout d'un mois, mais la fatigue fait ressortir de toi le pire de ce que tu es. Et en fait, chez moi, ça se concrétisait en un excès de violence dans les mots. Je gueulais. Okay. Très facilement. J'hurlais, sans raison. Et je m'énervais après. En plus, une heure après, ça te paraît complètement dérisoire. Mais j'en voyais tout péter. C'est-à-dire que ça me saoulait tellement que je préférais même pas. Je gueulais, je partais. Je disais, c'est bon, ça m'a saoulé. Je m'en vais et je tournais le dos à mes problèmes. Donc, je tournais le dos au petit, je tournais le dos à ma femme. Et puis voilà. Et puis une heure plus tard, tu reviens, t'as l'air d'un idiot. La situation est passée. Et le problème, c'est que, en gros, j'ai mis énormément de temps à me remettre en question. Je pensais que, tu sais, schéma classique, c'est jamais moi le problème. C'est sûrement le bébé. Ensuite, c'est sûrement ma femme. Ensuite, c'est tous les autres parce que tous les autres, c'est des cons. Et au bout d'un moment, quand tous les autres c'est des cons, bah c'est peut-être toi le con. et du coup,
si t'es le seul à aller à l'envers sur une autoroute, si tu veux,
exactement,
c'est un problème.
Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui cloche et je peux mieux faire. Et en fait, je me suis pas mal renseigné sur, j'ai lu pas mal de bouquins. Alors, étrangement, pas sur la paternité. Parce que je trouvais pas ça très intéressant, mais surtout sur tout ce qui est neurologie et fonctionnement du cerveau. Et en fait, je suis tombé sur un bouquin qui expliquait exactement comment fonctionnait le cerveau et comment fonctionnait abus de substances. Et il y avait un encart sur la fatigue. Dans quelle mesure ça pouvait désinhiber certains trucs? Et au contraire, exacerber d'autres choses chez toi, exactement de la même façon que tu peux prendre du crack ou quoi que ce soit, et ça a exactement les mêmes effets. Alors, c'est au bout de, je te dis, 4 nuits, 5 nuits, une semaine de mauvaises. Et il y avait tout un truc en disant, voilà les effets et tout ça. Et je me suis tellement reconnu dans ce que je pouvais lire. Ce bouquin donnait des astuces pour reconnaître les prémices de la fatigue. Pour dire, oula, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il faut peut-être lever le pied sur certains trucs. Et tu vois, dans le sens où on surcommunique avec ma femme, bah écoute, j'ai réalisé que j'étais pas. À l'époque, j'étais pas forcément bon à voir les signes avant-coureurs, Mais ma femme savait très bien les déceler chez moi. Et en fait, elle me le disait. Elle me dit, ouh, t'es un peu fatigué, toi. Et si tu veux, c'est un déclencheur. C'est, ok, t'es en train de me dire que peut-être que je suis un petit peu con, là. Mais de façon plus sympa que tu t'es con. Parce que du coup, ça passerait pas. Parce que vu que t'es fatigué, tu prends les choses mal. Donc voilà, on a instauré certaines petites astuces comme ça. Et en fait, j'ai réussi à dompter cette fatigue, à savoir la déceler. Et clairement, bah, quand je sens que je suis fatigué, et ben, je gère pas. Et la même chose pour ma femme, parce que ma femme a aussi ce travers-là. On arrive à un peu désamorcer la bombe avant qu'elle pète.
Ok, work in progress.
Ouais, work in progress tout le temps. Et si tu veux, dans le sens mauvais papa, c'est que je suis un papa, je veux créer un sentiment de confiance avec mes enfants de telle façon que, je te dis, je fonctionne énormément par principe, de telle façon que j'ai pas forcément besoin d'élever la voix pour me faire respecter. Moi, j'ai été élevé un peu à la vieille école. Mon père est un super papa, mais c'était beaucoup sur la crainte. S'il y a une connerie, oh, je regardais la taille des mains de mon père, je dis, oh là, celle-là, si je me la prends, vaut mieux pas que je fasse la connerie. Et j'ai jamais voulu tomber dans ce schéma-là. Et d'avoir cet excès de violence ou vraiment pas sympa dans ces moments-là, c'est un peu comme si je sortais de moi-même et je m'écoutais parler. Et à la seconde où ça sortait de ma bouche, je regrettais déjà. J'ai dit, mais c'est pas possible que je sois aussi débile que ça. Et en fait, c'était trop tard. Et en fait, en face, t'avais ce petit gamin, ce petit bout de 18 mois, 24 mois, qui te regarde, qui comprend rien, qui voit juste un adulte, qui est pour lui un géant, qui lui hurle dessus. Qu'est-ce que ça va changer pour lui, quoi. Donc c'est un peu ça, dans le côté rôle du père, très rapidement, je me suis pris les pieds dans le tapis en disant, ah la vache, mais c'est pas simple.
Ok. Comment vous décidez de faire un petit deuxième?
Eh ben, je suis fils unique, moi, à la base.
Ils ont combien d'années d'écart, tes deux fistons, là?
Le plus grand va sur ses 9 ans et le plus petit va sur ses 6 ans. Donc, ils ont un petit peu moins de 3 ans.
Ok. Donc, oui, tu disais t'es fils unique, c'est ça?
Alors, je suis fils unique. J'en ai jamais souffert, mais j'ai jamais trop voulu faire un fils unique. Parce que je trouve que une fratrie, enfin un frère ou une sœur, c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un en plus dans la famille. Et en plus, j'avais ce schéma où je t'ai dit, moi, avec mon père, j'avais une relation... J'ai vraiment une relation fusionnelle où mon père, c'était mon compagnon de jeu. Et je pense que j'ai usé mon père à jouer à droite, à gauche et tout. Et je me suis dit, oh la vache, je vais avoir un petit, si on a un fils unique, oh là, j'ai pris perpète. Et j'ai dit à ma femme, je dis, en plus, ma femme a une sœur. Et elle adore sa sœur et elle adore ce côté, avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un quelqu'un qui partage le même sang, quoi. Et du coup, on a dit ok, on y va. Et faut savoir que ma femme et moi, on est super compatibles pour avoir des enfants, donc il faut pas forcément beaucoup de préparation. Donc, on a décidé et dans la foulée, c'était en route, quoi. Donc le deuxième est arrivé à peine 3 ans après. Ce coup-ci, la situation était différente parce que en Australie depuis assez longtemps, on est tombé dans le schéma classique australien. Donc du coup, on avait accès aux hôpitaux publics. On n'a pas déboursé un seul euro pour la naissance, ce qui nous a pas mal changé la vie. Et voilà quoi. Et là, j'ai réalisé en ayant le deuxième qu'en fait chaque gamin est unique. Alors, il y avait un truc que je voulais partager aussi. Je me suis posé la question avant d'avoir le deuxième, vraiment peut-être un mois avant qu'il naisse. Je me suis posé la question, mais comment tu peux donner autant d'amour aux deux? Je m'imaginais un truc. Je sais pas si ça t'a fait avec tes filles. Je me suis vraiment posé la question. J'aime tellement ce petit bout qui est déjà là. Comment je fais pour pas faire 50-50, mais pour faire 100 et 100?
Et alors, comment t'as fait?
Eh ben, écoute, très naturellement, je crois qu'une fois que j'ai vu le petit naître, je me suis plus posé la question. Mais très, très naturellement. Je me souviens m'être reposé la question quand il était dans la couveuse et je me suis dit quelle connerie. Et ça a flotté tout de suite. J'ai vu ce petit bout. Je l'ai aimé exactement de la même façon. Je me souviens avoir eu les mêmes sentiments qu'à la naissance du premier. Et là, je me suis dit, ah bah ok, c'est tellement naturel. Il faut pas se poser la question. Et je me suis réellement posé la question.
Ouais. Mais je pense qu'on se la pose tous. Et après, il y a un moment donné où il y a cette fameuse phrase, l'amour se multiplie, tu sais. qui est un peu cliché, qui veut rien dire tant que tu l'as pas vécu, je pense, tu vois.
Ouais, mais tu vois, l'amour se multiplie, mais moi, l'amour, pour moi, c'était, tu vois, comment tu peux aimer autant deux personnes, deux potes, ou deux amis, vraiment, deux proches amis, ou... Et en fait, je pense que juste la conclusion, c'est que tu parles pas du même amour, donc la question est simple.
Écoute, je te propose de faire un petit fast-forward, sauf si tu as des, choses particulières à partager en fait entre la naissance de ton deuxième et là où vous en êtes aujourd'hui. Comment vous avez pris cette décision de ce projet? Je ne sais pas si tu as des trucs en particulier dont tu veux
en fait,
parler.
En fait, si tu veux, si on peut faire un fast-forward très rapide sur comment est-ce qu'on en est arrivé là à être dans une caravane à traverser l'Australie. C'est que, en fait, si tu veux, j'ai toujours eu un principe de vie qui est, je fais aucune concession sur, et ma femme est pareil, sur notre liberté. C'est-à-dire que moi, j'ai été constamment assez anxiogène du côté routinier de certains côtés de la vie. Et j'ai grandi dans une famille qui était très, très dans ce schéma-là. C'est-à-dire que mon père a bossé 35 ans dans la même boîte. C'est toujours un mystère pour lui comment tu peux ne pas bosser de 8h à 19h et appeler toujours ça du boulot, tu vois. Mais moi, j'ai toujours tout de suite voulu trouver un équilibre et essayer d'être libre dans notre façon de faire les choses. Et ma femme et moi, on a toujours voulu bosser ensemble. Donc en fait, il y a 6 ans, on a lancé notre premier business ensemble qui continue toujours et ce qui nous permet de vivre à l'heure actuelle. Et qui, en fait, dès le début, qui était un business où on pouvait bosser de n'importe où. Des horaires très flexibles. Et ce qui nous a permis de, par exemple, être très présent avec les enfants. Donc, par exemple, l'école en Australie, c'est de 9h à 15h. C'est des petites journées. Et du coup, tu passes énormément de temps après 15h avec tes enfants et tout ça. Donc, on les emmenait à l'école, on allait les chercher à la sortie de l'école. Ensuite, on a lancé d'autres business avec ma femme qui ont plus ou moins bien marché. On aime bien tester des trucs et tout ça. Donc, puis comme on fait pas
en
vraiment
couple, tout le temps en couple.
Tout le temps en couple. En fait, on a pris la décision assez tôt de je veux pas avoir la responsabilité d'impacter trop de gens négativement. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'embarquer trop d'employés. J'ai pas envie d'embarquer trop de monde dans mes projets. Parce que c'est trop de responsabilité. J'ai pas envie de décevoir les gens et tout ça. Alors que si c'est que elle et moi, ben voilà, on en parle. S'il y a les pots cassés, on les compte ensemble. Et puis ben c'est nos pots cassés à nous et c'est pas les autres. Donc ça nous a pas empêché d'avoir certains trucs assez sympas. On a lancé une start-up. On s'est fait. On a eu en tant qu'investisseur un équivalent de Xavier Niel australien. Ça c'était plutôt cool. Okay. On a des histoires sympathiques. On est vraiment écolo aussi dans notre façon d'aborder les choses. Donc on a lancé une start-up qui permet de on est dans le pneumatique, donc de recycler les pneumatiques de façon beaucoup plus écologique que ce qu'on fait en Australie. Donc des projets qui nous portent vraiment. Mais toujours avec cette idée de on veut pouvoir bosser de n'importe où, n'importe quand et sans vraiment devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Et en fait, Covid est passé par là. Donc au mois de mars-avril, l'Australie était en confinement. Et en fait, on a été hyper surpris du nombre de personnes très proches, pour certaines, qui ne supportaient pas avoir les enfants à la maison. Sans aucun jugement. Hein. C'était juste, on s'est dit, alors que ma femme et moi, on adorait ça. On disait, la vache, c'est génial. On bosse de la maison. On arrive à bosser à peu près quand on veut. On a les enfants. On leur fait l'école. C'est cool. On est heureux, tu vois. On est bien. On est tous les quatre. on est heureux. Et en fait, on a réalisé qu'au sortir du Covid, au sortir du confinement, je veux dire, en Australie, qui s'est passé à peu près au... Alors là, je vais faire des jaloux, mais courant mai de cette année, parce qu'on n'est pas retombé en confinement. Nous, on n'a plus de cas de Covid en Australie, là, à l'heure actuelle, ou très peu. On a pris la décision avec ma femme de déscolariser les enfants. Une des raisons, et là je vais revenir à ton podcast et à l'interview que tu avais fait avec Freddy. Ah, bah Freddy, si tu nous écoutes, mes enfants sont déscolarisés en partie grâce à toi.
Oh, d'accord. Juste pour remettre un peu de contexte pour les gens qui n'auraient pas écouté cet épisode, c'est que donc c'est un épisode qui date un petit peu, où j'avais interviewé justement donc Freddy, qui raconte son parcours. De père qui a fini par enfin de père et de parents qui ont fini par déscolariser leurs enfants et je t'avoue que de mon point de vue en tout cas c'est l'un des épisodes qui m'a le plus retourné la tête où je me suis dit mais c'est vrai que t'as beaucoup de préjugés par rapport à la façon de fonctionner et lui il a tellement une vision des choses qui est out of the box comme on dit mais tellement folle que il m'a retourné la tête et j'imagine que plein de gens derrière donc merci de le citer parce que c'est vrai que il a marqué pas mal de gens. Donc ouais, tu disais que ce podcast t'avait en tout cas incité à
m'avait décomplexé du fait de déscolariser les enfants. Et ensuite, on s'est vraiment posé la question avec ma femme, est-ce qu'on remet les enfants après le confinement à l'école? La réponse a été clairement, ben non, on va tester, on va regarder comment ça se passe. Et une fois de plus, on a rien contre l'école. C'est juste que, en tant que jeune âge, jusqu'à peut-être 10-12 ans, je trouve que t'as plein de choses à apprendre qui s'apprennent pas à l'école. Et en fait, tu vois, si j'avais un truc sur lequel je reste très solidement ancré dans mon rôle de père, c'est de filer des raccourcis que tu n'apprends pas à l'école à mes enfants. Et en fait, ça couvre pas mal de choses, mais tu vois, je te parlais de, par exemple, comment gérer sa fatigue, parce que moi, je l'ai vécu et je me suis dit, oh la vache, mais c'est une horreur. Mais personne t'apprend à gérer ta fatigue. Tu peux être le meilleur des mecs, tu peux être le meilleur des businessmen, tu peux être le meilleur des papas du monde et tout, mais si tu ne sais pas gérer ta fatigue, tout s'envoie en l'air. Tu prends les mauvaises décisions et tout ça. Il y a tout un tas de trucs qui s'apprennent pas à l'école. Comment gérer tes émotions, savoir ce qui te plaît. Tu vois comment mais tu peux pas gérer tes émotions sans savoir vraiment ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Tout un tas de trucs. Mais ça demande du temps. C'est pas le matin vite fait une heure le matin avec eux. Enfin c'est ma vision des choses. Hein. Une fois de plus, je juge personne. Mais moi, je pense pas que je puisse faire ça avec mes enfants en les voyant dans un schéma normal 4 heures par jour. Il y a trop de choses à gérer. Donc, du coup, on a pris la décision, on a dit, tu sais quoi, on va faire un peu plus l'école de la vie, on va les retirer de l'école, on ne néglige pas l'enseignement scolaire en tant que tel, mais on va pas se mettre la pression. Moi, ce que je veux, c'est que mes gamins soient bien dans leur peau. Et ça, on te l'apprend pas à l'école. Loin de là. Moi, je vois l'école un peu comme une... Si t'es fort, ça passe. Mais si t'es faible, tu te fais broyer par le système. Et je l'ai vécu, moi, au niveau perso. Ma femme l'a vécu encore à différents niveaux, même plus que moi. Et en fait, on s'est vite rendu compte que les retirer du schéma d'école... On avait peut-être plus à gagner qu'à y perdre. Et en fait, on a pris la décision de les enlever définitivement de l'école. Alors, il y a différentes façons de l'enlever de l'école en Australie. Il y a ce qu'ils appellent le homeschooling, donc l'école à la maison, où tous les mois, tu te fais envoyer des... C'est un peu l'école par correspondance. Ou carrément la déscolarisation, où tu dois rendre des comptes à personne, si ce n'est une fois dans l'année, envoyer au gouvernement un rapport. Et on a choisi cette dernière option. Parce que, une fois de plus, on veut rendre des comptes à personne. Et donc, du coup, on est parti sur cette idée. On a fait l'addition. On a dit, on a un boulot qui nous permet de voyager n'importe où, de bosser n'importe où, à n'importe quelle heure. On a des enfants qui ne sont plus attachés à une école. Du coup, on n'a plus de routine. Et du coup, post-Covid, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les trucs qui nous animent? Et on a trop vu de gens souffrir, on a trop vu de gens perdre leur boulot. S'il n'y a rien qui change après Covid, c'est qu'on n'a rien compris. Et en fait, on s'est regardé, on a dit, bah écoute, nous, ce qui nous anime, c'est deux choses. On veut pousser le truc écologique, dans le sens où on rêve d'avoir tu vois, de la permaculture et tout ça, d'avoir un grand terrain à permaculture et tout ça. Donc, on était sur le point d'acheter une maison, grande maison, grand terrain et tout ça. Et à côté de ça, on s'est dit, il y a autre chose aussi qu'on doit apprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont essentielles dans la vie. Et c'est là où on a commencé à faire la liste des choses qui sont essentielles avec ma femme. Et tu mets ça en parallèle à un gamin de 5 et 8 ans. Et on se dit, qu'est-ce qui est essentiel pour eux? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous au niveau famille? Et en fait, on arrive à la conclusion que bah, la ferme permaculture, on peut la faire dans 10 ans. Par contre, arriver à marquer le truc là, maintenant, tout de suite, pendant que nos enfants sont en âge de comprendre, de s'imprégner de l'expérience et tout ça, ben en fait, c'est maintenant. Et donc, du coup, c'est pour ça que je te dis dans l'email, c'est que tu as, malgré toi, contribué à la réfection d'une vieille caravane de 1985. C'est que pour la fête des mères, donc au mois de mai, sorti confinement, on a acheté une vieille caravane. Et moi, j'ai aucune expérience dans retaper quoi que ce soit. Et en fait, je me suis lancé dans la retaper de fond en comble une vieille caravane de, comme je disais, 4,5 mètres par 2 mètres de large. Donc, on vit dans 9 mètres carrés. Et en fait, on en a fait un cocon familial contre un bal. Voilà, le fast forward contre un bal maintenant partout autour de l'Australie. Donc, ma femme, moi-même, mes deux enfants et notre chien.
Et vous faites ça depuis un mois et demi, c'est ça ?
Un mois et demi, on a pris la décision de... On a quitté la maison dans laquelle on était il y a un mois et demi. Et on a voyagé pas mal dans le nord du Queensland, donc dans le nord de l'Australie. Ensuite, on est redescendu parce que les températures sont vraiment assez... on parle de entre 45 et 50 degrés dans la journée. Donc, wow. Donc ça, vieille caravane de 1985, pas de clim... Donc on la joue plutôt cool. On redescend dans le sud de l'Australie. Donc là on est à Sydney. Ensuite on va redescendre à donc Canberra, Melbourne. Voilà.
Je vous mettrai le lien de votre compte Insta parce que vous tenez un compte Insta. Où je te disais là, juste avant l'interview que ça faisait quelques jours que je voyais ta femme et qui se prenait en story pour montrer que vous étiez sur la plage. J'étais ok, bon, ça a l'air cool votre vie. Mais
elle est cool. Mais tu sais, on a pris la décision de tenir ce truc Instagram pour tenir au courant les amis et la famille. Et en fait, ce qu'on veut, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout en vue d'être influenceur ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de ça. Mais en fait, on veut donner envie aux gens et on veut être capable de peut-être faire un déclic chez certaines personnes parce qu'en fait, si tu veux, on avait toutes les bonnes raisons de pas le faire. On est une famille, on était établi, on avait un boulot, on avait notre situation là-bas. On pouvait rester dans notre schéma et toi, rapport à ce que je te disais avant, c'est que ben on s'est senti un peu étriqué et voilà, ça sentait un peu trop pour moi le schéma préétabli, un peu la routine et il fallait donner un petit coup de pied dans la fourmilière et c'est notre projet à nous. On n'a pas du tout de date de retour. On est vraiment libre là-dessus, mais c'est vraiment pour donner un peu le déclic aux gens et on veut vraiment montrer aussi le côté... alors certes, il y a le côté sympa et tout, mais on risque de tourner dans les prochaines semaines plutôt le côté plutôt réaliste du truc. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps... Voilà, par exemple, bon, la météo, il pleut depuis 3 jours. Quand tu es enfermé dans une caravane de 9 mètres carrés avec 2 enfants et un chien, il faut être inventif. Il faut déjà surtout être très patient. Gérer ta fatigue. non, ça se passe bien. En plus, on a un autre principe qui est qu'on n'utilise pas les écrans, pas d'iPad, pas de téléphone pour les enfants. ou très 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 peu. Vraiment cas ultime où on a 6 heures de route et on sent que les enfants ça va pas le faire. Mais donc du coup tu vois, j'ai passé c'est la slow life comme on appelle ça. J'ai passé à peu près 3 heures aujourd'hui, il pleuvait, on a collecté des bouts de bois et on a allé acheter une corde et on a fait un sapin de fortune pour Noël. Ça nous a pris 3 heures. Voilà, on aurait pu le faire en une demi-heure, mais on a pris le temps parce qu'on a le temps. Et qu'est-ce que c'est bon d'avoir le temps?
Et en fait, à côté de ça, vous arrivez aussi à gérer votre business, c'est ça?
Ouais,
parce que pour
ça.
Moi, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un côté, et je dis ça sans aucune animosité, mais c'est vrai que de l'extérieur, tu te dis, ok, en fait, vous montrez sur Instagram que les bons trucs, comme tu disais tout à l'heure. Et je trouve que c'est cool si vous commencez à parler un petit peu plus des aspects plus compliqués à gérer, des moments de stress et des aspects plus routiniers aussi, parce que quoi qu'il arrive, j'imagine que même dans une vie comme ça, il y a quand même des moments de routine et des moments de quotidien un peu plus lourd, quoi. Donc, vous arrivez quand même à prendre du temps pour gérer votre business et votre business se porte bien?
Ouais, absolument, ouais. On a la chance d'avoir un business vraiment solide. Bon, ça fait 6 ans qu'il existe.
Vous faites quoi? Vous bossez dans le recyclage de pneumatiques, c'est ça?
Ouais, le recyclage de pneumatiques, mais aussi, donc ça c'est un des business, mais l'autre business qui nous fait vivre et qui nous permet d'être sur la route, c'est j'ai créé il y a 6 ans une plateforme de plateforme de vente en ligne de pneumatiques. Okay. À l'international. Donc on est agent, on est middleman, broker, je sais plus comment on dit ça en français, mais intermédiaire, voilà, entre grossistes à travers le monde. Donc on bosse avec une vingtaine de pays et voilà. Donc ça m'éclate parce que moi j'ai toujours fait du business à l'international, du commerce international. Okay.
Business de niche, donc vraiment.
Business de niche, exactement. Business de niche avec des clients très, très fidèles qui savent exactement ce qu'on est en train de faire. J'ai toujours voulu être clair avec eux et voilà, parce que un des points de stress, par exemple, c'est que les connexions Internet en Australie ne sont pas forcément bonnes partout. Et quand tu as un pays comme ça, c'est vraiment très dur d'avoir une connexion impeccable. Et on a des moments où on n'a pas internet pendant 12 heures, quoi.
Et là, ça peut être compliqué si jamais il y a une urgence à gérer, quoi.
Exactement, ouais. Donc on l'a pas eu encore, mais je sais qu'on l'aura. Donc il s'agit juste de se préparer. Et ça va faire partie des petits coups de stress qu'il va certainement y avoir.
D'accord. Et ouais, tu disais donc pour se projeter un petit peu vers l'avenir, c'est que vous n'avez pas de date de retour pour l'instant. Et donc ça veut dire aussi que vous savez, enfin, pour vos enfants, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est une forme de longues vacances là qui se passe?
Alors c'était des longues vacances un peu pour tout le monde. Là on a passé un mois, tu sais, qui est un peu le côté quand tu prends des longues vacances, tu pars un mois. Là, ça fait un mois et demi, donc tout le monde commence à sentir le côté « Ah, ça commence à être notre routine, ça c'est cool », tu vois. Et donc, du coup les enfants ont pas du tout on n'a pas de schéma préétabli au niveau… Enfin, les journées ne sont pas du tout organisées. C'est vraiment… on part le matin, on quitte un camp le matin, on ne sait pas du tout où on va aller. La technologie fait qu'on navigue avec différentes applications qui font qu'on sait exactement où aller pour tel ou tel spot. On peut voyager une heure et se reposer pendant 3-4 jours, ou on peut voyager 5 heures et se poser peut-être une demi-journée et puis repartir après. Ça dépend vraiment de l'ambiance, de ce qu'on veut faire. On a juste une étape qui moi c'est mon anniversaire mi-janvier, on va être en Tasmanie mi-janvier parce que j'adore la Tasmanie. Et donc voilà, donc il s'agit de prendre un petit ferry et puis d'aller en Tasmanie, mais voilà, on est sinon c'est au jour le jour, donc c'est pas forcément plus simple de vivre au jour le jour. Moi je sais par exemple que moi ça me va, ma femme a du mal avec ça. Elle a besoin de sa structure de la journée ou de la semaine, savoir où on va aller et tout ça. Moi je suis capable de commencer le lundi, et si je sais pas où je dors le lundi soir, moi ça me va complètement, parce que justement j'étais beaucoup dans l'organisation avant ça, durant nos années précédentes. Ouais, je pense qu'il y a un lâcher prise qui commence à s'installer, qui commence à être pas mal appréciable. Et j'ai toujours dit à ma femme, je rêve du moment où je sais que j'ai le temps, et si j'ai envie de me poser et de lire un bouquin pendant 3 heures, je le fais. On n'en est pas encore là, parce qu'on a toujours un truc à faire à droite à gauche. Il y a des couacs à droite à gauche sur la caravane, parce que je sais pas qui a trafiqué cette caravane, mais il y a des trucs, c'est vraiment mal fait. mais voilà. Et donc, ce qui est sympa au niveau parents, c'est que je pense que moi, en tant que gamin, tu peux pas devenir ce que tu peux pas voir. Et en fait, si t'es pas constamment exposé à des exemples, à des schémas qui sortent un peu de la routine, du coup, tu vas retomber dans une routine. C'est inévitable. Et le système est fait de telle façon que, il faut faire des études, peu importe trop pourquoi. Moi, je reste persuadé que quand mes gamins seront sur le marché de l'emploi, ça aura tellement changé que ce qui comptera vraiment, c'est de l'adaptabilité. Il n'y a que ça qui comptera. Et si t'es pas capable de switcher ou d'être super super rapide dans la réflexion, dans l'adaptabilité, c'est là où ça va pêcher. J'ai vraiment pas beaucoup de projets pour mes enfants. Je suis vraiment omnibulé par le côté leur filer des raccourcis et de savoir qui ils sont. Et encore, tu vois, ça veut tout et rien dire parce que un gamin à 8 ans, c'est pas le même qu'à 15 ans.
Ah oui.
Et je me suis pris une claque cette semaine. Là, j'ai mon gamin de 8 ans qui m'a fait la gueule pour la première fois. Il m'en a voulu pour un truc pour la première fois. Et ça m'a brisé le cœur. Et je me suis dit, c'était de ma faute, hein. Et je me suis dit, ah la vache. J'ai dit, voilà, on y est. C'est malléable jusqu'à 8 ans. Maintenant, ça commence à décider ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est bien pour lui. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il a réussi à dire ce qu'il aimait pas de ce que j'avais fait. Et moi, j'ai 36 ans maintenant, je suis toujours pas à l'aise à dire à mon père ce qui fait pas bien de, tu vois. Et je suis super fier qu'il ait été capable de me le dire à ses 8 ans. Tu vois. Donc voilà, j'ai pris ça comme un point gagné pour la semaine.
C'est bien joué, j'allais dire bien vu, même si ça t'a piqué, en vrai, good job.
Ouais, tu te prends des piqûres de rappel par les gamins, hein. ils sont vraiment intransigeants et à la fois quand je regarde mon petit de 5 ans qui te regarde dans les yeux et qui te dit non, j'ai pas envie. Combien de fois j'ai dit à ma femme, mais moi je veux être comme lui. Moi je veux pouvoir dire non, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie là. Tu vois. Et oui, on a. Tu vois, devenir parent, devenir adulte, pour moi ça a toujours été. Si t'es pas stressé, si t'as pas de responsabilité, si tu t'arraches pas les cheveux, si tu te tues pas à la tâche, t'es pas un vrai adulte. Et c'est le schéma dans lequel j'ai grandi. Et j'ai vu mes parents fatigués, j'ai vu mes parents énormément travaillé et tu vois, pour la petite histoire, après bons et loyaux services, j'ai vu ma mère se faire licencier le jour de ses 50 ans, après 20 ans de boîte. Et elle bossait dans la grande distribution et je l'ai vue se faire licencier et galérer 5 ans à retrouver du boulot. Et c'est là où j'ai réalisé, j'ai dit waouh, là il y a vraiment un truc à creuser et se tuer à la tâche. Et rentrer dans des schémas qui font qu'à la fin, il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Je veux pas ça pour moi, je veux pas forcément ça pour mes enfants. Donc si je peux leur inculquer un autre schéma, après ils prennent ou ils prennent pas, mais je veux vraiment qu'ils soient exposés à d'autres schémas. Et si mes petits, ils ont pas envie de retourner à l'école et qu'ils ont envie de faire un truc qui leur plaît, par exemple en Australie, il y a pas mal de filières où qui tourne autour de la nature et tout ça, et c'est très basé sur l'expérience, donc t'as pas forcément besoin de rentrer dans les études et tout ça. Ben voilà, s'ils ont envie d'aller vagabonder sur la barrière de corail ou d'aller faire le tour du monde ou tout ça, ben qu'ils y aillent. Mais moi, j'ai attendu mes 25 ans avant de partir. Ben, mes parents, mes enfants, j'espère, tu vois, à 10 ans, ils sauront que ben, tu peux partir facilement.
Ah, c'est cool. Mmh. Et comme tu dis, ça passe par l'exemple, donc c'est d'autant plus viable, entre guillemets, quoi.
Ouais, je me souviens, je sais plus qui disait ça, mais toi, les enfants ne se rappellent pas de ce que tu dis, mais de ce que tu fais. Mmh. Et ça, c'est tellement vrai. Tu t'as beau leur dire 10 000 fois, arrête de faire ça, ça marche pas. Par contre, quand ils te voient ne plus le faire, et bien souvent, en plus, t'es le mauvais exemple, bah, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc ouais, on a pris cette décision il y a un mois et demi, sans date de retour. Ma femme voulait peut-être une date de retour, moi j'ai décidé de pas en mettre pour le côté un peu vertigineux du truc, le côté un peu j'ai écouté le dernier podcast que t'as posté avec Ben Mazuet, que j'ai découvert, ouais, par toi, qui expliquait son départ pour la Réunion, et qui expliquait le côté vertigineux du départ. Et tu vois, on l'a vécu il y a 10 ans quand on est arrivé en Australie. Et là, on le revit. C'est-à-dire qu'on est... Ce qui est beau dans... Ce que j'aime bien dire, c'est que dans notre histoire de couple, c'est qu'on arrive à... On arrive encore à avoir ce côté vertigineux avec deux enfants et un chien. Tu vois, le deux enfants et un chien, j'aime bien le rappeler, parce que deux enfants et un chien, ça fait toujours très, très ronron, tu vois.
Famille, quoi. Ça fait famille établie.
Mais ça fait famille établie dans un appart haussmannien à Paris, machin, tu sors le chien et tout ça. Et moi, j'aime bien l'idée que, ben, on l'a, mais c'est pas routinier et c'est pas ronron. Et casser les codes. Casser les codes, c'est vraiment le truc qui je pense, est un standard chez nous qui j'espère transpirera après ça transpire ou ça transpire pas, mais du moment que ma femme et moi on est alignés avec ce qu'on veut leur inculquer, c'est ce qui compte, je crois.
Ouais, c'est cool. J'ai une petite proposition à te faire après, mais avant ça, j'aimerais bien te poser ma dernière question, tu sais. Si tes deux fistons écoutent dans 10 ans ce podcast, ils auront donc 18 et 15 ans et bientôt 19 et 16 d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui ?
Que j'adore cette question. Alors tu vois, en plus, je suis mauvais parce que j'écoute tes podcasts, je ne me suis pas du tout préparé.
C'est bien, t'es naturel.
Ouais, YOLO. Beaucoup trop sans filet. Oh ouais, bah, c'est ouais, du sans filet. Je leur dirais que... Bah déjà, j'espère que le... Bon, dans 10 ans, j'espère que le road trip, il sera terminé quand même. J'espère qu'on aura bien rigolé, qu'ils auront des super souvenirs, que mon grand de 18 ans, bah, tu vois, il sera sur le point de passer le permis, qu'il n'hésite pas à prendre un van et partir, comme papa et maman l'ont fait en famille. S'il veut partir à l'étranger, voyager le monde, qu'il le fasse, qu'ils n'attendent pas après qui que ce soit. Et surtout qu'ils essayent, qu'ils aient peur de rien, qu'ils aient surtout pas peur de l'échec, qu'ils arrivent à avoir une confiance en eux qui fait que peu importe ce que tu fais, tu peux apprendre de la façon la plus dure possible, mais ça va, ça rebondit, et derrière la vie est toujours plutôt bien faite, et au final ça est toujours plutôt un côté positif à n'importe quelle situation. Donc qu'ils se lancent. Qu'ils n'hésitent pas et qu'ils n'hésitent surtout pas à remettre les choses en question. Constamment. Qu'ils n'hésitent pas à réfléchir à pourquoi ils font les choses ou pourquoi les autres font les choses. Que voilà. Ouais.
Merci beaucoup, Guillaume, pour ce...
Je t'en prie, Fab.
Pour ce partage, c'était vraiment cool. Et pour toute l'histoire, je suis très heureux que tu prennes le temps de venir partager ton histoire sur mon podcast, et que bah, ce podcast ait pu t'apporter plein de choses. Enfin, ça, c'est un peu mon objectif avec toutes ces histoires. Donc c'est vraiment cool que ça t'ait apporté tout ça. Je voulais te proposer de se donner rendez-vous dans un an et qu'on fasse un peu un point sur où vous en êtes avec la famille dans un an, si tu veux bien.
Ah ouais, trop bien.
Parce que bah, je sais pas trop où on en sera dans cette dans cette histoire de pandémie mondiale dans un an. Les scientifiques ont l'air de dire qu'on en a encore au moins jusqu'à l'été, en tout cas dans le reste du monde. J'imagine peut-être l'Australie. J'espère que l'Australie va continuer à rester safe, comme tu as l'air de dire, quoi. Je t'avoue que j'ai pas suivi un peu où ça en était. J'ai cru voir que la Nouvelle-Zélande il y avait plus du tout de Covid. C'est le pareil en Australie, c'est ça?
Alors c'est pareil en Australie, mais le problème qu'on a en Australie, c'est qu'ils ouvrent pas les frontières et qu'ils laissent pas sortir les habitants du pays. Donc on a plus de cas, mais là ils parlent. Donc là on est en décembre. Ils parlent d'autoriser les vols à l'étranger pas avant 2022.
Waouh.
Donc voilà, c'était la dernière annonce. Donc pas de cas de Covid, mais pour nous, on reste quand même pas mal isolé. Donc ça va, on a un grand jardin qui s'appelle l'Australie dans lequel on peut pas mal s'amuser. mais carrément, j'aime l'idée de se retrouver dans un an. Et t'as ma parole que positif ou négatif, on en reparlera.
Parce que ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait chaud au cœur, vraiment.
Parce qu'on n'est pas à l'abri que ça se passe très très mal.
Bien sûr. Oh là là. La vie, parfois, tu fais des plans et puis pas. Voilà, comme ça, elle te rattrape et elle te met une petite balayette là.
C'est clair. Ah ouais.
En tout cas, encore merci. Comme je le disais un peu plus tôt, je vais vous mettre, si ça vous intéresse de suivre un petit peu la vie de Guillaume et de sa famille, je vais vous mettre le compte Insta dans les notes de l'épisode. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une belle vie et puis un bel anniversaire en Tasmanie. Alors.
Super, merci Fab. Et franchement, merci beaucoup pour le podcast. Je pense que c'est assez dur quand tu fais des podcasts sur le côté avoir des retours tant que tu n'interviews pas les gens, mais je l'ai partagé pas mal autour de moi et c'est vrai que le retour est constant. Ça apporte vraiment pas mal, surtout le côté. Enfin, je pense que tu parlais d'un marché de niche dans lequel on était nous avec Top Pneumatique, mais je crois que tu as tapé dans une niche là qui s'appelle la daronitude ou la daronnerie c'est pas une niche, mais quand tu cherches les darons qui veulent bien s'ouvrir, là tu tapes dans la niche là. Non, merci pour le podcast et franchement ça m'a énormément aidé à pas mal de niveaux.
Merci à toi.
Merci Fab.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.